RCF.
Travailler plus pour gagner plus. On connaît le fameux slogan et la logique économique qui veut que plus le temps de travail est long, meilleur sera le salaire. L'évangile de ce jour vient balayer ces calculs et remettre en cause le droit du travail. Normal, c'est une parabole, et comme à chaque fois que Jésus utilise ces petites histoires allégoriques, il vient interroger nos façons de voir le monde, de penser ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et bousculer nos certitudes. Cette fois-ci, il compare le royaume à un vigneron qui distribue le même salaire à tous ses ouvriers qu'ils aient travaillé une journée ou une heure. Pour commenter cette parabole, je reçois la bibliste Marie-Reine Mezzaroba. Nous commençons par écouter la parole, c'est chez Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16.
Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans travail. Il leur dit « Allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures. Et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez-vous aussi à ma vigne ?» Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. »
Marie-Reine Mezzaroba, un mot sur le contexte. Cette parabole, elle intervient juste après un passage où Pierre demande à Jésus « Nous avons tout quitté pour toi, alors qu'est-ce qu'il y aura pour nous ?»
Oui, ce qui vient après la rencontre avec le jeune homme riche qui n'a pas été capable de quitter son père et sa mère et tous ses biens. Et du coup, les disciples sont tout à fait étonnés en disant « Mais enfin !» Si c'est exigeant à ce point, comment on va pouvoir faire ?
Rappelons que la parabole, c'est une histoire généralement qui a pour théâtre la vie coutumière de l'époque. Alors là, c'est un vigneron qui demande à des ouvriers de venir travailler chez lui. Et puis, il y a toujours quelque chose d'étrange, une anomalie au cœur de la parabole. Généralement, Jésus, par ses histoires, veut nous faire réagir.
Oui, et il y arrive d'ailleurs dans celle-là.
On peut dire que c'est l'objectif, c'est de mettre une situation qui choque.
Absolument. Enfin, en tout cas, dans celle-là, toutes les paraboles ne sont pas comme ça, mais celle-là, elle est faite pour choquer.
Pour réveiller ?
Elle est faite pour, oui, plus que réveiller. Je crois qu'elle choque. Et je disais à des amis, je crois que c'est une parabole à ne pas donner aux enfants avant qu'ils aient l'âge d'avoir compris que normalement, habituellement, on paye quelqu'un au salaire qui est dû en fonction de normes humaines et que la justice, selon les hommes, c'est que si t'as pas travaillé, tu gagnes rien. Si tu as travaillé un petit peu, tu gagnes un petit peu. La logique humaine, c'est ce qui est dû, c'est en fonction de l'effort, c'est en fonction de du temps que tu as passé, de la fatigue que tu as prise. Enfin, c'est ça qui te donne d'avoir un salaire, et le salaire étant ce qui nous permet de vivre.
Oui, donc pour qu'il y ait réaction, il faut qu'on comprenne cette logique-là, et les enfants, il faut qu'ils la comprennent, justement, pour que la parabole joue son rôle.
Voilà, parce que les enfants, eux, ils vivent dans la pleine gratuité. C'est-à-dire que pendant des années, ils reçoivent tout, et ils pensent en plus que ça leur est dû. Donc il faut qu'ils arrivent à comprendre cette logique humaine, pour dans un deuxième temps, comprendre que là, Jésus nous fait rentrer dans la logique du royaume de Dieu.
Alors justement, Marie-Hélène Mezzaroba, la parabole commence comme ça. Le royaume des cieux est comparable à, et à quoi ? À un maître du domaine qui sort au petit jour pour embaucher ses ouvriers pour sa vigne. Il se met d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoie à sa vigne. Le royaume des cieux, il faut rappeler que c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les évangiles. C'est quoi ce royaume ?
Moi, je crois que ça désigne la vie selon Dieu, c'est-à-dire notre rencontre, ce que peut devenir le monde, l'humanité, quand elle vit selon Dieu. Et c'est pas pour après la mort. Ça commence maintenant, puisqu'il dit ailleurs, le royaume des cieux est au milieu de vous ou parmi vous. Donc c'est quand on rentre dans cette logique. Mais dans cette logique, il y a quand même ce maître qui est extérieur à notre logique.
En fait, c'est plus une qualité d'être, une manière de réagir et d'exister qu'un lieu, qu'une forme particulière. Ça n'a rien à voir avec le royaume tel qu'on peut l'imaginer.
Ah, c'est pas du tout géographique. C'est pas un lieu, c'est une manière d'être. Et il donne des tas de comparaisons qui nous évitent quand même de nous enfermer dans une d'elles. De se dire, ça y est, on sait ce que c'est le royaume des cieux.
Et alors, la vigne, il est souvent fait référence hein, dans l'évangile de Matthieu à la vigne.
Oui.
Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ?
La vigne est quand même un mot très important de la vie biblique. Déjà, c'est Isaïe qui parle, Isaïe 5, qui parle de la vigne du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Le Seigneur qui se plaint parce que il avait tout préparé pour que son peuple soit heureux. Et il avait pris tellement de soins, et voilà, entre eux, c'est l'iniquité, c'est l'injustice, c'est les pleurs. Et il dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ma vigne ? Et on retrouve ça aussi dans d'autres paraboles, y compris chez Matthieu, par exemple, les vignerons homicides. C'est-à-dire, c'est toujours le rapport, enfin toujours, souvent, le rapport entre Dieu et son peuple. Et c'est insignifiant de la joie, de la rencontre, du lieu, j'allais dire, de la vie selon Dieu.
Oui, de la vie du royaume, justement.
Oui, oui, oui.
Où la fête est première, normalement, la joie est première.
La joie est première, le vin, hein, voilà.
Revenons avec vous sur cette histoire d'ouvriers embauchés par le maître, parce que les premiers ouvriers sont embauchés au petit matin, donc, avec un accord.
Voilà.
Une journée de travail égale une pièce d'argent. C'est la seule fois d'ailleurs dans la parabole où les termes du contrat sont aussi clairs.
Oui.
Qu'est-ce que ça nous dit d'eux là, ces ouvriers, les premiers ?
Ça dit qu'ils étaient d'accord. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un contrat d'embauche avec tu travailles pendant 7h, 8h, 10h, je ne sais pas quelles étaient les coutumes. Tu travailles la journée, une journée de travail de ton époque et tu as ce qui correspond à un salaire acceptable pour le travail que tu fais. Et c'est une pièce d'argent. Bon.
Mais par rapport aux autres, on verra plus tard, le contrat était clair, parce qu'il ne redira pas, le maître, tous ces termes du contrat pour les autres.
Alors c'est très drôle, parce qu'au suivant, il leur dit « Je vous donnerai ce qui est juste ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, et les autres sont obligés de lui faire confiance, puisque ce qui est juste, ça veut dire quoi ?
Eh oui, ça veut dire quoi, ça ?
Hein ? Si quelqu'un vous dit « Venez travailler, je vous donnerai ce qui est juste », vous ne savez pas ce qu'il entend par ce qui est juste.
C'est un peu flou.
C'est très flou.
Et donc on peut dire qu'il y a une logique de confiance pour les ouvriers de 9h du matin, alors que ceux qui étaient plus tôt, visiblement, eux, ils étaient dans une logique de donnant-donnant.
Oui, ils étaient dans une logique contractuelle.
Contractuelle.
De salariat.
Et alors, comment vous l'interprétez, ce « je vous donnerai ce qui est juste » ? Non pas une pièce d'argent, mais « je vous donnerai ce qui est juste ».
Ça vise la fin de la parabole. Qu'est-ce qui va être juste ? Que la pièce d'argent est ce qui vous permet de vivre aujourd'hui. Ça me fait penser au Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Et c'est pas le pain pour demain, c'est le pain d'aujourd'hui. Et finalement, ce qui est juste, c'est une pièce d'argent pour que tu puisses vivre. On nous dit pas si c'est spirituel ou si c'est matériel, mais c'est peut-être bien les deux, hein, c'est ce qu'il faut pour vivre.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Marie-Hélène Mezzaroba, je rappelle que nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. C'est chez Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Un maître vient chercher des ouvriers pour travailler à sa vigne. Alors les premiers, c'est très tôt le matin, il y a un contrat. Les deuxièmes viennent pour avoir ce qui est juste. Et puis l'évangéliste Matthieu nous dit qu'il sortit de nouveau ce maître vers midi. Puis vers 3 heures, il fit de même. Donc là, il va chercher des ouvriers, et là, il n'est plus du tout question ni de salaire, ni de ce qui est juste. Il les appelle.
Ben, il fit de même, donc on peut imaginer qu'il leur a dit « je vous donnerai ce qui est juste ». Mais effectivement, je pense que plus on avance, plus les gens se disent « de toute façon, je ne vais pas avoir grand-chose, mais ça sera mieux que rien ».
Et qu'est-ce que ça nous dit de cet homme qui sans arrêt cherche, part à chercher les gens là pour travailler à sa vigne?
Ah bah, il est quand même étrange. Enfin, étrange oui et non. Alors, est-ce qu'il n'a pas trouvé? Parce que pourquoi est-ce qu'il va chercher les gens comme ça à toutes les heures? Est-ce qu'il n'a pas trouvé? Ou est-ce qu'on peut aussi le rapprocher de Jésus quand il nous parle de la brebis perdue ou de la drachme perdue, où il nous met en scène quelqu'un qui va chercher. Et donc cet homme, il revient plusieurs fois pour chercher des personnes qui n'ont pas encore été embauchées, qui n'ont pas trouvé quelque chose à faire de leur vie, et en tout cas de leur journée, et qui sont en attente et disposées à lui répondre. La question que je me suis toujours posée, c'est comment se fait-il qu'il ne se soit pas rencontré avec les derniers, qui disent qu'ils sont restés là toute la journée à attendre. Ce maître, il semble qu'il est venu plusieurs fois, et pourtant, il y a toujours des gens qui, ils nous disent à la fin, il me semble, qu'ils étaient présents depuis le matin, mais qu'ils n'ont pas été embauchés.
Oui, ils auraient pu rencontrer le maître.
Ben oui, longtemps je me suis demandé pourquoi ils ne l'avaient pas rencontré. Et ça reste un mystère. Même quand je l'applique à des personnes qui cherchent le Christ, ça reste un mystère de savoir pourquoi des personnes ont rencontré le Christ quand ils étaient tout jeunes et pourquoi d'autres ne l'ont pas rencontré, et le rencontrent sur leur lit de mort, ou quasiment.
Marie-Hélène Mezzaroba, il y a une dernière sortie vers 5 heures du maître de la vigne pour aller chercher à nouveau des ouvriers. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Et là, il dit « Allez vous aussi à ma vigne. » C'est un peu tard, 5 heures du soir.
C'est la dernière heure. Alors moi je vous avoue que là j'ai une lecture complètement chrétienne, c'est-à-dire pour avoir rencontré comme aumônier d'hôpital en particulier une personne dans ces 3 dernières semaines de vie, je dois dire que cette femme a rencontré le Christ à ce moment-là par une de ses amies qui lui a dit « tu sais, l'église n'est plus comme tu penses » et cette femme, dans les 3 dernières semaines de sa vie, a fait une rencontre du Christ qui la rendait mais lumineuse d'être enfin accueillie comme elle était. C'était quelqu'un qui n'avait jamais été dans les bons mariages aux yeux de la religion. Et du coup, elle avait raté sa vie intégralement, j'allais dire, parce que dès le début, le conjoint qu'elle aurait aimé avoir n'a pas été accepté par sa famille pour des motifs religieux. Et ça a été une catastrophe pour cette femme. Et ensuite, elle n'était plus dans les clous parce qu'elle était divorcée. Enfin, c'était jamais être dans les clous. Elle a rencontré le Seigneur à la fin de sa vie, qui l'aimait gratuitement, qui ne lui demandait pas de compte. Et ça reste pour moi une clé de lecture de cette parabole.
On a l'impression que le maître aussi, c'est moins l'idée de sa vigne qui l'intéresse que de rencontrer des personnes qui vont aller y travailler.
Oui. Ça renvoie tout à fait, vous savez, la parabole du père qui envoie ses 2 fils à la vigne. On voit bien aussi, il envoie ses deux fils, un dit qu'il va y aller, et puis il n'y va pas, l'autre, il dit qu'il ne va pas y aller, puis il y va. Bon, on voit bien qu'en fait, Jésus cherche à embaucher des gens, et qu'il cherche à nous embaucher, à mon avis, il cherche à nous embaucher tous, à nous embaucher pour travailler à ce royaume. C'est-à-dire à la fois pour nous y introduire, qu'on en profite, qu'on vive dans ce royaume, mais aussi pour qu'on participe à sa construction.
Qu'on soit co-créateur,
parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il a voulu ça comme ça, il ne peut pas le faire tout seul, il ne peut pas le faire sans nous.
Poursuivons la lecture de cette parabole. Marie-Hélène Metzahoba, le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Vous le disiez, première étrangeté dans ce texte, la distribution démarre avec ceux qui ont travaillé le moins longtemps.
Oui, donc sous les yeux de tous les autres. Et déjà, c'est eux qui vont pouvoir partir le plus vite, n'est-ce pas ? Pour aller se reposer. Et en plus, puisqu'ils ont eu le salaire total, les autres peuvent se dire, ben, nous, on a mérité plus. C'est un peu logique. Se dit, ben, ce maître est très généreux, peut-être que finalement, s'il paye une heure comme ça, ben, il va payer au prorata. Notre logique à nous, c'est au prorata. Si une pièce d'argent pour une heure, ben, deux pièces d'argent pour deux heures, etc. Voilà.
C'est ce qui explique la réaction des autres. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent.
Ils reçoivent ce qui est juste, ce qui a été convenu, ce dont ils ont besoin et le salaire correspondant. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien de plus et rien de moins que les autres.
Dans leur logique contractuelle, d'ailleurs, c'était signifié au début.
Mais oui, complètement.
Donc, ils s'étaient engagés pour ça.
Ils n'ont rien de plus et rien de moins.
Hein. Mais c'est parce qu'ils voient les autres.
Mais oui.
Qu'il y a une logique de convoitise qui se met en place ou de jalousie ?
C'est parce qu'ils le voient qu'ils s'en rendent compte, oui, bien sûr. Enfin, quand on voit comment on a été élevé dans... Là, je fais des rapprochements chrétiens, mais comment on a été élevé dans notre éducation chrétienne, à accumuler les mérites. Enfin, ou comment on s'imagine, même quand on n'est pas chrétien, que la vie, ça se mérite, et qu'il faut faire des efforts, et que les gens qui sont dans des situations difficiles, douloureuses, c'est toujours un peu de leur faute. Hein. C'est que s'ils ont raté de leur vie, c'est de leur faute. Enfin, si ça va pas, s'ils n'ont pas une bonne place, s'ils sont au chômage, c'est certainement qu'ils n'ont pas assez bossé. Enfin, je veux dire, on a toujours ça, c'est très humain, de se dire qu'on reçoit la vie en fonction d'un mérite. Et ça me revient à l'idée qu'effectivement, les enfants ne pensent pas ça tout de suite. Ça vient après. Dans un premier temps, ils ont été nourris in utero, sans rien faire. Mais petit à petit, on les fait rentrer dans l'idée qu'il faut gagner sa vie. Et c'est vrai dans la logique humaine. Mais dans la logique de Dieu, la vie est donnée complètement. Et du coup, il n'y a rien à mériter.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expression, en tout cas, de la colère, de la déception. Il parle, hein, ses serviteurs frustrés. Et alors, le maître répond à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent ?»« Mon ami, mon compagnon », traduit Sœur Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Il y a une grande proximité, là. C'est beau, ce terme.
C'est beau d'un côté. En même temps, il lui dit « Va-t'en », ce qui est quand même assez violent. Donc,
Parce qu'il lui dit « Prends ce qui te revient et va-t'en ».
Va-t'en. Puisque tu n'es pas content si ça ne va pas. De toute façon, chacun repart aussi. Hein, je veux dire, on est dans la logique de la parabole.
Et comment vous l'interprétez, cette parole un peu rude du maître ?
Ben, je crois que ça nous dit quand même que si on reste dans cette logique, qui est notre logique spontanée de la jalousie, si on y reste coincé, on est exclu, on est mis dehors. On s'exclut en réalité, on s'exclut de ce qui pourrait être justement le festin qui se donnerait dans la vigne à la fin d'un repas, d'une journée de travail.
Et dans la relation.
On s'exclut de la relation avec les autres, avec tous les autres.
Parce qu'on a l'impression que cette phrase cinglante, en fait, il lui envoie presque pour lui projeter ce que lui-même vit, au fond. De se couper, va-t'en,
c'est comme si
lui-même, c'est lui-même qui se dit ben, « je me coupe ».
Ben, il lui signifie. Tu te coupes, bon, tu ne supportes pas, et ben écoute, pars. Puisque je suis bon, ça t'est insupportable, et ben Tu te coupes toi-même.
Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ?
Ouais.
Ça, c'est le maître qui parle. Donc, liberté par rapport à la logique marchande ?
Bah, c'est surtout une gratuité absolue. C'est-à-dire, ça renvoie à ce que vous disiez en tout début d'émission. C'est l'excès. L'excès de demande de dons, qu'aucun homme n'en donnera assez. Et l'excès de demande, l'excès du don de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même, il va aller jusqu'à donner sa vie. Et c'est quand même un texte qui est encadré par les annonces de la Passion. Il y en a une qui suit immédiatement, ce texte. Donc on voit bien que Jésus va aller jusqu'à donner sa vie et qu'il est venu pour donner en abondance et il nous signifie là, de ce don, vous n'en voulez pas. Et il nous le dit à chacun, parce que c'est vrai. Du don gratuit, de cette surabondance, nous n'en voulons pas.
Et pourquoi ?
Parce que pour nous, tout s'achète et tout se vend. Enfin, si vous voulez, tout se mérite. On a une espèce d'orgueil terrible et de jalousie, ça nous mène dans notre monde. Et Jésus ne nous rate pas, j'allais dire. Pour nous, il nous symbolise les choses et il les interprète, mais d'une façon pas du tout doucereuse et pas du tout gentillette, en disant « mon pauvre chéri », enfin « non, 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 clac !» c'est violent.
La parole tranche.
La parole tranche, oui, oui.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon ? C'est la fin de cet évangile. Marie-Hélène Mezzaroba, l'œil mauvais en fait il intervient très très vite dans la Bible.
Eh oui, oui, oui.
La Genèse.
Ben oui, ça intervient tout de suite. Hein. Oui, oui. Alors je ne sais plus exactement quand ça intervient, mais je suppose que déjà c'est entre Cain et Abel. Vous pensiez à quoi ?
Le serpent.
Au serpent, bah oui, 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 bien sûr. Enfin, c'est la jalousie, la comparaison, le mensonge, c'est-à-dire...
Qui fait croire à l'homme qu'il est dépossédé de quelque chose qu'il n'aura pas,
oui,
s'il
oui,
fait
oui.
alliance.
Oui, oui, bah oui, voilà. C'est... Oui, bah, qui lui fait croire que Dieu est jaloux de lui. Qui fait projeter de la part de l'homme sa propre jalousie sur Dieu. Enfin, ou la jalousie du serpent. Hein, c'est-à-dire le serpent, il essaye de dire « Mais tu peux vivre tout seul. T'as pas besoin de Dieu. T'as pas besoin. » Et on peut vivre tout seul. On peut s'exclure et vivre rien qu'en essayant de vivre par soi-même. C'est-à-dire sans ouverture. Je parle pas de foi confessante. Hein. Je parle de foi dans une gratuité du don de la vie. C'est pas que les gens croient en Dieu ou en Christ. Bon, c'est une chance pour nous, mais c'est pas fondamentalement ça. C'est est-ce que je reçois la vie comme un don ou est-ce que je reçois la vie comme un dû ? Et évidemment, il y en a jamais assez.
Marie-Hélène Mezzaroba, il faut quand même citer le dernier verset de cet évangile. Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers.
Alors, ça fait penser un petit peu à ce que dit Marie dans son cantique, dans son Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et je me dis, c'est la chance pour les premiers, c'est qu'ils vont être tellement humiliés que ça peut les rendre petits. Du coup, ça peut les ouvrir à la réception du don. À partir du moment où ils vont se trouver dehors, en se disant, ben alors, coincés dans cette jalousie, dans cette convoitise, et ils vont se dire, mais là, je ne vis pas, je suis mort. Alors du coup, ils vont faire comme les autres, ils vont appeler au secours. Enfin, ils vont dire, mais donne-moi, appelle-moi.
C'est ça les ténèbres du dehors, quand on dit ils sont jetés dans les ténèbres, ben c'est dans leur propre colère, dans leur
ben
propre...
Ben oui, dans les ténèbres dans lesquelles ça nous place de nous couper du don. Parce qu'on ne l'a pas mérité, parce que les autres en ont eu plus que nous, parce qu'on n'arrive pas à accepter que chacun a eu son chemin et que le Seigneur donne la vie à tout le monde, de quelque manière que ça se soit passé. Parce que finalement, on rentre dans la joie. Quand vous pensez aux paraboles où Jésus va chercher, où on attend le fils prodigue, on retrouve ça chez le fils aîné. Comment c'est possible qu'on accueille comme ça ce frangin? Mais il va s'exclure, lui, du banquet. C'est dramatique pour ce gars-là. Et on se dit comment ça va se faire, quoi. Et ça ne peut se faire que, je dirais, à travers sa souffrance. C'est-à-dire de percevoir qu'il s'exclut. Et que du coup, cette logique, il est resté depuis le début, il était dans une logique salariale, le fils aîné. Hein, une logique, j'ai mérité, j'ai travaillé, j'ai... Et lui, il n'a rien fait, enfin c'est quoi ça? Est-ce qu'il va devenir fils l'aîné? C'est ça qui est douloureux. Hein.
Marie-Reine Mezzaroba, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur ce texte, mais la bonne nouvelle profonde qu'on entend à travers ce que vous avez commenté, c'est qu'il n'y a pas à mériter la vie.
Non, il y a à l'accueillir, c'est-à-dire qu'il faudrait croire. Mais alors ça, c'est le plus dur.
Pourquoi est-ce si difficile d'y croire?
Je crois que la défiance, enfin, c'est-à-dire ce que vous parliez du serpent, la défiance est quelque chose, en tout cas que j'ai repéré dans ma propre vie, comme quelque chose de très précoce. Et ce qu'introduit le serpent, c'est la défiance. C'est-à-dire, Dieu t'a parlé et il t'a menti. Et du fait qu'on a tous été plus ou moins trompés de façon ou d'une autre, parce que nos parents ont fait comme ils ont pu. Enfin, on s'est placé devant plus ou moins de défiance par rapport aux autres qui n'ont pas tenu leurs promesses.
Et on n'y croit plus.
Et du coup, on s'est coincé dans une attitude qui consiste à ne croire au final qu'en soi. Et c'est très, très, très ancré. Enfin, quand je regarde dans ma propre vie, je me rends compte que c'est beaucoup plus ancré que je n'imaginais. Donc, cette défiance, cette impossibilité de croire, fait que la vie, ça se mérite et je me la donne. Et on a beaucoup de mal. Et je pense que ça existe aussi chez les petits, c'est pour ça qu'on a Caïn et Abel. C'est-à-dire que Caïn voit que le sacrifice d'Abel est accepté. Et Ésaü voit que c'est Jacob qui est béni, en plus il lui a volé sa bénédiction. Alors il dit, il a ce cri déchirant, « Est-ce que tu as une bénédiction pour moi, Père ?» Et c'est la question de chacun.
Le gros doute. Hein.
Le gros doute, est-ce qu'il y a une bénédiction pour moi? Et quand est-ce que nous acceptons enfin, j'allais dire d'être assez petit, d'être assez... peut-être désespéré, je ne sais pas, enfin, pour recevoir quelque chose gratuitement.
Merci à vous, Marie-Reine Mezzaroba. Pour ceux qui veulent lire cet évangile, nous l'avons lu chez Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16.